réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment, 6 heures?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible. Nous sommes le vendredi 15 avril et depuis lundi, nous sommes en compagnie de l'ornithologue Philippe Dubois. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de votre métier, Philippe Dubois, bonjour.
Bonjour.
Et en deuxième partie, on parlera d'un autre ornithologue qui n'est peut-être pas très connu ici en France, mais qui est considéré comme un des plus grands de sa spécialité, un historique, comme on dit, Audubon, à l'occasion de la sortie d'une bande dessinée chez Dargo sur les ailes du monde. On sera en duplex avec le dessinateur depuis Bruxelles.
Tête chercheuse. Les oiseaux et nous, avec Philippe Dubois.
Profession ornithologue. Alors, d'abord, peut-être la première question, Philippe Dubois, comment on devient ornithologue? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'exercer ce métier?
Bon, alors moi, initialement, c'est très jeune, tout petit, je suis tombé dedans parce que j'aimais beaucoup la nature, les animaux. Alors les vaches, hein, avant les oiseaux, mais peu importe. Et puis c'est une grande tante qui m'avait donné un guide qui s'appelait le Peterson, qui était un des guides remarquables, qui était le premier guide d'identification d'oiseaux réalisé par un Américain. Bon, je trouvais tous ces oiseaux dans tout posé dans le même sens, ça ne m'intéressait pas. Et puis un jour, je l'ai réouvert et d'un seul coup, je me suis dit, mais je vais partir à la découverte de ces oiseaux. Et voilà, et c'est parti comme ça, et avec une paire de jumelles, un vélo, une mobylette, une voiture. Au fil des années, j'ai décidé d'arpenter le monde. Ça, c'était le côté passionné d'oiseaux. Ornithologue, pour répondre à votre question, on n'est plus ornithologue au XXIe siècle comme on l'était au XVIIIe. Les ornithologues du XVIIIe, c'était souvent des gens très riches, jusqu'au début du XXe siècle d'ailleurs, des gens qui étaient fortunés, qui voyageaient et qui étaient surtout des collectionneurs. Et qui étaient des gens qui arpentaient aussi le monde pour faire des collections d'oiseaux. Et donc, ils avaient une façon très particulière de collecter les oiseaux, c'est qu'ils les tiraient pour leur collection. Donc, ils avaient ce qu'on appelle une canne-fusil, ils tiraient les oiseaux pour leur collection.
Donc, c'était des chasseurs d'oiseaux.
C'était des chasseurs d'oiseaux, mais qui avaient quand même des visées très naturalistes, parce qu'en fait, on connaissait très peu. C'était toute la période, le 19e siècle, c'était la période où il a fallu inventorier le monde du vivant. Et donc, tous ces ornithologues étaient des gens qui décrivaient les espèces. Donc, à chaque fois qu'ils sortaient, ils décrivaient 3 ou 4 ou 5 nouvelles espèces. Aujourd'hui, l'ornithologue au XXIe siècle, c'est souvent quelqu'un qui est dans un laboratoire, qui est devant un ordinateur, qui va utiliser des modèles mathématiques et qui va faire plus de la génétique que de l'ornithologie de terrain, puisqu'en fait, c'est la génétique qui va nous renseigner sur la filiation des espèces entre elles, etc.
Est-ce qu'il y a eu des références universitaires dans votre parcours? Je veux dire par là, est-ce qu'on peut parler d'une culture, d'une famille d'ornithologues français?
Ah oui, notamment au 19e siècle, beaucoup de ce qu'on appelle les descripteurs, c'est-à-dire qui étaient des naturalistes qui décrivaient les nouvelles espèces, depuis Buffon, hein, Buffon a été un des tout premiers, beaucoup étaient des Français. Et donc, ils ont eu un rôle très très important. Ensuite, au tournant du XXe siècle, où on est passé à une ornithologie plus fondamental. On a eu plus... Le monde des anglo-saxons est devenu très prégnant. Aujourd'hui, c'est principalement les Américains, les Anglais, un peu les Scandinaves, qui sont un peu à la tête de toute la recherche fondamentale en ornithologie. Mais les Français restent encore présents. Mais c'est plus que c'était, c'est moins.
Philippe Dubois, quand je vous ai contacté pour vous proposer cette série, vous m'avez donné une belle définition de votre métier. Quand je vous ai dit pourquoi vous l'avez choisi, vous m'avez dit que c'était pour être là où les gens ne sont pas.
Oui, alors je ne suis pas du tout un asocial. Enfin, je me considère plutôt comme...
Mais comme si vous alliez à la conquête de territoires encore vierges aujourd'hui.
Voilà, alors c'est assez amusant parce que... Moi, j'aime bien être avec les hommes, mais j'aime bien aussi être à distance d'eux. Ce qui est extraordinaire quand vous êtes un naturaliste, en général, hein, parce que vous pouvez vous intéresser aux grenouilles, aux plantes et aussi aux oiseaux, c'est que vous pouvez sortir très facilement des sentiers battus. Dans mon livre, je parle beaucoup de l'Antarctique, de la Mongolie, de la Sibérie, etc. Mais on peut sortir des sentiers battus en Italie, en Espagne, etc. Il suffit d'aller là où les gens ne vont pas. Or, les oiseaux se trouve souvent assez loin des concentrations humaines. C'est pas sur la Costa Brava en Espagne que vous allez trouver beaucoup d'oiseaux. Par contre, c'est dans des sierras très reculées où il y a peu de gens que vous allez trouver des oiseaux. Et en allant dans ces régions, vous allez faire des rencontres humaines tout à fait intéressantes. Parce que les gens ont moins l'habitude de voir des touristes. Moi, il y a un pays que j'adore, auquel je retourne régulièrement, c'est la Mongolie. Parce que la Mongolie, dès que vous sortez de la piste, vous êtes vraiment au milieu de nulle part et vous allez rencontrer des gens qui ne voient, pour ainsi dire, jamais, entre guillemets, d'occidentaux. Et donc, même si on ne parle pas la même langue, on va avoir tout de suite des échanges. Et ils sont intrigués de voir un ornithologue qui arrive avec sa longue vue, sa paire de jumelles, son appareil photo. Ils se disent...
votre arsenal ?
C'est mon arsenal, c'est très lourd. Et ils nous prennent un peu pour des extraterrestres. Mais c'est extraordinaire. Je vous raconte juste une anecdote. En Mongolie, on était vraiment au fin fond dans le désert de Gobi. Et on a rencontré un éleveur qui avait ses chevaux et ses moutons assez loin, à peu près 1,5 km, et il voulait regarder dans mes jumelles, bien évidemment. Donc je lui passe mes jumelles, il porte les jumelles à ses yeux, et il a vu donc les oiseaux, et il a vu, pardon, les chevaux et dans ses jumelles, et il a tendu le bras. Parce que comme ça rapprochait, il avait l'impression qu'il pouvait toucher les chevaux. Je trouvais ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'il était, d'un seul coup, il pensait que les jumelles lui permettaient de toucher ses chevaux. Vous voyez, donc des gens qui n'ont pas l'habitude de... Et c'est ça où il y a les plus beaux échanges. Quand on leur explique qu'on est là pour juste observer les oiseaux, pour les étudier, alors probablement ils doivent nous prendre souvent pour des fous. Mais en même temps, il y a beaucoup de respect. Mutuel aussi.
Et en France, où en est notre culture des oiseaux ?
Moi, je dis toujours que les paysans, jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, étaient probablement les meilleurs ornithologues. Ils connaissaient tout sur les oiseaux, comme ils connaissaient tout sur les mammifères ou sur les...
Vous voulez dire que c'est plus le cas aujourd'hui ?
Non, du tout. Non, ils sont sur leur tracteur, ils n'ont pas le temps. D'abord, malheureusement, dans les campagnes, il y a de moins en moins d'oiseaux. Et puis, ce n'est plus leur préoccupation. Là aussi, on est dans l'immédiateté, on n'est plus dans le temps long. Donc, le temps long, l'immédiateté ne vous permet plus de prendre le temps de regarder. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Maintenant, les gens... ce que je vois, par contre, c'est qu'il y a de nouveau une sensibilisation. Je pense que les gens... On le voit bien, d'ailleurs, dans le tourisme. Le tourisme vert, c'est quelque chose qui progresse d'année en année. Les gens n'ont plus envie de voyager idiot, plutôt. Et donc, si on propose aux gens des activités tournées vers la nature, et par exemple, en été, vers l'observation des oiseaux, ça marche tout le temps. Les gens sont heureux. Qu'est-ce qu'ils en gardent après ? Je ne sais pas. Mais fatalement, ils en garderont toujours quelque chose. Donc, je ne dis pas qu'il y a un retour, mais il y a en tout cas un intérêt. Et on voit bien qu'il y a de plus en plus de gens qui aiment prendre une paire de jumelles, regarder des oiseaux. Alors, ils n'auront peut-être pas faire des voyages pour les oiseaux, mais s'ils ont l'occasion d'observer des oiseaux, ils le feront.
Est-ce que vous avez les moyens de votre politique ou de vos travaux, de vos questionnements aujourd'hui, Philippe Dubois ?
C'est compliqué. C'est, alors, comme je vous l'ai dit, l'ornithologue traditionnel du 19e a disparu.
Celle des ordinateurs ne s'est pas installée encore.
Voilà, et parce qu'il n'y a plus de financement. Mais prenons un exemple qui est important. On connaît probablement une infime partie, je ne parle pas que des oiseaux, mais une infime partie des espèces animales et végétales qui peuplent la Terre. Parce qu'autrefois, il y avait des gens qui étaient payés pour faire des descriptions, pour chercher et identifier les oiseaux. Maintenant, il n'y a plus de financement. Donc, ça veut dire qu'on a peut-être 70% des animaux qui n'ont jamais été recensés, dont on ne connaît même pas le nom. Or, ces espèces-là peuvent disparaître. On en a parlé lors des précédentes émissions. Or, ce qui est possible, c'est si on prend les plantes, il y a probablement, dans ces espèces qui n'ont jamais été décrites et qu'on ne connaît pas, des plantes qui pourraient soigner des maladies. On voit quand même qu'il y a un grand nombre de plantes qui, aujourd'hui, ont un rôle très important dans les thérapies. Donc, faute de temps, faute de moyens, on ne prend plus le temps d'inventorier le vivant. Et ce faisant, on passe probablement à côté de choses qui pourraient nous aider, nous sauver. Il y a peut-être une plante ou des plantes qu'on connaît peu et qui pourraient nourrir l'humanité. Parce qu'on ne connaît pas tout, et loin s'en faut. Et là, voilà, il n'y a pas de financement pour le faire, et c'est un vrai problème.
Vous faites un très beau portrait d'un ornithologue du XXIe siècle dans votre dernier ouvrage, justement, Les tribulations d'un chercheur d'oiseaux, parce qu'on vous voit prendre des bus, des moyens de fortune. Et puis, à un certain moment, vous allez être contacté par Nicolas Hulot. Et là, vous dites, Philippe Dubois, que soudain, la superproduction est à votre service grâce à TF1.
Oui, c'était assez extraordinaire. C'était en Alaska. On a fait une émission sur, justement, l'impact du réchauffement climatique sur le vivant. Et là, d'un seul coup, vous avez tous les moyens qui sont mis à votre disposition pour jouer le naturaliste. Donc, c'est à la fois excitant et puis, voilà, on peut se poser la question. Néanmoins, les émissions de Nicolas Hulot ou Soaya ont eu ce mérite, cette vertu même, de faire rêver les gens et quelque part de les faire, prendre conscience à la fois de la beauté du monde et de sa fragilité. Mais voilà, des fois, il faut prendre certains moyens pour arriver à des fins qui sont de bonnes fins.
À quoi bon me fracasser ? Dit l'oiseau, sachant chanter, au chasseur, sachant chasser, qui voulait le fricasser. Si tu me fais trépasser, chasseur au cœur desséché, tu n'entendras plus chanter l'oiseau que tu pourchassais. Mais le chasseur, très froissé, dit à l'oiseau tracassé, je n'aime pas la musique, et tire un coup de fusique. Le chasseur manque l'oiseau, qui s'envole et qui se moque. Le chasseur se sent bien sot et l'oiseau lui fait la nique. Après tout, dit le chasseur, j'aime beaucoup la musique. Moi aussi, dit le siffleur, se perchant sur le fusique. L'oiseau futé. En fantasque, Claude Roy, 20e siècle.
Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, Les tribulations d'un chercheur d'oiseaux, aux éditions de La Martinière. Est-ce que vous avez des voyages en vue, Philippe
Bois ? J'ai envie de retourner en Mongolie. Et puis, oui, je voudrais aller, par exemple, il y a un pays dans lequel je n'ai jamais pu aller, et malheureusement, je crains de ne pas pouvoir y aller prochainement, c'est l'Afghanistan, parce que c'est un pays qui sublime, où il y a des paysages formidables. Et je crains de jamais pouvoir y aller. Je suis allé, par exemple, il y a quelques années, en Syrie, qui est un des plus beaux pays que j'ai rencontré, où j'ai vu une population. Je me permets d'en parler deux secondes, parce que on voit ce que souffre, combien souffre ce pays. J'ai rencontré des gens d'une gentillesse, mais c'était extraordinaire. Je n'avais qu'une idée, c'était de retourner en Syrie, faire de l'ornithologie et rencontrer ces gens. Et puis, la guerre est arrivée et je crains fort de ne jamais pouvoir y retourner.
Alors justement, terminons là-dessus. Est-ce que la guerre fait fuir les oiseaux ?
Ah, je pense que la guerre doit avoir probablement un impact. Il y a eu Roland Dorgelès, puisqu'on parlait aussi de littérature, avait écrit notamment pendant la guerre de 14, De la main qui a été un écrivain assez connu au début du XXe siècle, qui était le livre de chevet de François Mitterrand, Pourquoi les oiseaux chantent. Il avait a écrit de très, très belles pages quand il était soldat dans, dans les tranchées. Et il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Quand votre pays est en proie aux guerres et aux bombes, les oiseaux souffrent de la même façon que les humains. Il faut des années et des années. On l'a vu au Vietnam. La guerre du Vietnam a eu un impact terrifiant sur la forêt, avec les, le gaz orange, les défoliants, etc. Ça a évidemment un impact sur le vivant, au sens large, humain compris, malheureusement, mais tout le reste.
Alors, il y a quelques espèces d'oiseaux qu'on ne peut retrouver qu'en Afghanistan et qu'en Syrie, pour reprendre votre exemple. Voilà votre envie de retourner dans ces pays depuis touchés par la guerre.
Moi, je voudrais, parce que d'abord, voir quel a été l'impact de la guerre sur, justement, certaines populations qui étaient déjà fragiles.
Par exemple
Ce n'est pas des espèces très, très connues. Il y a un oiseau qui s'appelle l'outarde, qui est chassé par les Saoudiens, qui venaient, qui payaient très cher. Donc, ils ne peuvent plus y aller en ce moment, où c'est plus compliqué. Et ça serait intéressant de voir si les populations sont encore là. Les travaux en Afghanistan des chercheurs datent maintenant, remontent à très longtemps. Comment cette avifaune a évolué? Moi, j'aimerais beaucoup aller dans le Pamir, dans des régions comme ça. C'est des régions qui sont très compliquées. Et c'est important de voir aussi comment ces espèces d'oiseaux évoluent dans des terrains et des milieux qui sont devenus très, très difficiles et très hasardeux.
En deuxième partie de l'émission, dans un instant, on va parler de l'actualité de la bande dessinée comme tous les vendredis. Cette fois-ci, on va parler d'un ornithologue, puisqu'une bande dessinée se propose de nous raconter l'histoire si méconnue en France d'un Français qui a eu son heure de gloire et qui est toujours connu aux États-Unis, c'est-à-dire Audubon. Est-ce que vous le connaissez?
Alors, il est mort il y a un certain temps, mais...
Est-ce que vous connaissez ses travaux et son fameux livre Birds of America?
Bien sûr, on peut dire que c'est un des ouvrages fondateurs de l'ornithologie. Jean-Jacques Audubon, je ne vais pas raconter cette histoire, mais il était français, et effectivement, il était dans le Loire-Atlantique, il est parti aux États-Unis. Et là, il s'y est implanté, il n'est jamais revenu, et il était illustrateur, ornithologue et illustrateur. Il a fait des dessins sublimes dans ce fameux Birds of America, et il était un excellent ornithologue, excellent. Alors, bon, il avait une tendance à tirer les oiseaux qu'il observait pour pouvoir ensuite les dessiner, mais c'est quelqu'un qui a marqué. Et aux États-Unis, il est infiniment plus connu qu'en France. Preuve en est, c'est que la plus grosse association d'ornithologie aux États-Unis, qui est quand même forte de 5 millions de membres, ça fait quand même du monde, s'appelle la Audubon Society. Donc ça veut dire que il a terriblement marqué les États-Unis. Les Américains sont souvent assez protecteurs de la nature chez eux. Et donc, c'est vrai que Audubon est une personne. Et d'ailleurs, c'est pas Audubon, vous voyez, je le dis à l'américaine. C'est Audubon, puisque, encore une fois, c'était un Français.
Et quand vous feuilletez aujourd'hui son livre Birds of America, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez des espèces qui ont disparu?
Alors, absolument. C'est très intéressant parce qu'il a été le témoin, notamment le fameux pigeon migrateur, qui était une espèce qui. Il y avait des milliards d'individus, des milliards de pigeons. Audubon raconte lui-même que lorsque les oiseaux passaient en migration à l'automne, ils pouvaient passer pendant plusieurs jours, que le ciel en était obscurci. Alors peut-être qu'il exagère un peu, sauf que entre 1844, où il a noté ça, et 1914, où est mort le dernier pigeon, donc en 60 ans à peine, on est passé d'une population de plusieurs milliards d'individus à zéro. Ça veut dire que l'homme a quand même un pouvoir destructeur absolument extraordinaire. Et Audubon en a été le témoin.
Les oiseaux et nous, la série avec l'ornithologue Philippe Dubois est désormais à votre disposition pour le podcast ou la réécoute en ligne en passant par franceculture.fr. Tout est à votre disposition à la page de l'émission Un autre jour est possible. Je vous remercie infiniment de nous avoir accompagnés cette semaine.
Merci à vous. To my breast.
Quand j'étais enfant, un oiseau est tombé de son nid. Je l'ai ramené chez moi, serré contre mon cœur. Je l'ai gardé dans une boîte à chaussures. Je l'ai nourri d'insectes. Cela en devenait une obsession. Je lui lisais Ovid et Audubon. Je lui jouais Sid Barrett et Brahms. Puis, par un matin froid, il a essayé de s'envoler. La vitre de la fenêtre ressemblait tant au ciel. Cela lui a pris 5 heures pour mourir, en se brisant la nuque. Audubon par le groupe Kemp et Eden. France Culture. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem. L'invité culturel.
Et pour bien terminer cette semaine consacrée aux oiseaux, on ne pouvait espérer mieux que cette bande dessinée qui retrace la passionnante vie de Jean-Jacques Audubon, qui deviendra d'ailleurs en Amérique John James Audubon. C'est un passionné d'ornithologie, un peintre de talent, un dessinateur, et c'est Dargaud qui lui consacre ce très très beau livre avec un scénario de Fabien Grelot et des dessins somptueux de Jérémy Royer qui est à Bruxelles. Bonjour Jérémy Royer.
Bonjour.
Alors racontez-nous l'aventure de ce beau livre. Est-ce que vous-même vous connaissiez Audubon?
Non, je ne connaissais pas du tout Audubon quand on a commencé, en fait c'était il y a 2 ans. Je suis tombé sur une petite chronique, un petit reportage sur, je crois, sur France Inter, qui parlait justement de Audubon. Et je me suis intéressé, j'étais à voir un peu plus ce qu'il était sur Internet. Enfin voilà, je me suis renseigné. Et à ce moment-là, avec Fabien Grelot, on cherchait justement un scénario. Enfin, on avait des pistes un peu à droite à gauche, et je lui ai proposé ça, et lui connaissait. Et il m'a dit, mais c'est ce personnage qu'il faut faire, enfin voilà, c'est son aventure qu'il faut écrire. Et donc voilà, on s'est lancé là-dessus et je ne connaissais pas du tout. Effectivement, il est beaucoup plus connu aux États-Unis qu'en France. Et enfin voilà, c'est un grand personnage en tout cas.
En tout cas, c'est l'auteur d'un livre très important, et pas seulement pour les Américains, pas seulement en Amérique, c'est-à-dire Les Oiseaux d'Amérique. Ça a été le premier ouvrage d'un ornithologue qui a vraiment sillonné le territoire américain, c'est-à-dire tout un monde. Mais vous avez décidé, bien sûr, de raconter l'histoire, l'épopée scientifique d'Audubon, mais aussi de raconter l'histoire de ce personnage en mêlant un peu la fiction à la réalité, de sorte que, franchement, bah, moi par exemple, je ne sais pas quelles sont les histoires qui sont réelles et celles qui sont fictives.
Alors, c'est le grand rôle de Fabien, c'était justement un peu de mélanger un peu ces histoires, peut-être un peu cette aventure et cette poésie qu'il avait. Et en tout cas, voilà, on raconte pas, c'est pas une biographie, c'est un passage de sa vie, surtout la réalisation de ces. De ce magnifique ouvrage, voilà, Birds of America, où 435 planches, enfin voilà, c'est un travail monumental.
Dans certaines sont, on peut les voir à la fin de votre bande dessinée, hein.
Oui, on raconte un peu, il y a une petite biographie de Jean-Jacques Audubon à la fin, et on voit ses vraies réalisations, ses vraies planches, même si dans l'album je reprends un peu, mais enfin voilà, c'est vraiment autre chose, c'est pour la BD.
Alors justement, vous qui êtes le dessinateur de cette bande dessinée, vous avez travaillé sur la documentation, sur le livre, je suppose, d'Audubon, Birds of America, mais est-ce que vous aviez d'autres sources d'inspiration?
Je me suis surtout aidé d'un petit ouvrage que mon neveu m'a donné, m'a offert, un ouvrage sur les oiseaux de la Louisiane, justement. Et c'est là ma documentation, en fait.
Mais que pensez-vous de ces dessins, justement, Jérémy Royer, de ces représentations des oiseaux, de tout ce qu'il a peint?
Alors, c'est quelque chose de magnifique, parce qu'il a vraiment dessiné chaque oiseau avec précision, et il a passé du temps à les observer, et c'est des peintures qui donnent vie, en fait, à ces animaux, même si voilà, ça, pour moi au début ça paraissait un peu académique, comme on peut imaginer, voilà, voilà, de voir des dessins de Buffon ou ce genre-là. Donc,
ouais, d'une vieille encyclopédie du 19e voilà, siècle.
C'est
mais,
ça.
Ouais, mais ça ne l'est pas en réalité, hein, parce qu'on on le voit bien.
Vraiment pas, et c'est justement son combat, c'était de donner vie à ces peintures et pas juste représenter un canard de profil sur un fond jaune. Enfin, voilà, il donnait vie à ces animaux, à ces oiseaux, et donc voilà, c'est pour ça que c'est un personnage passionnant, et il s'est battu pour ça, en tout cas.
Et vous-même, pour terminer, Jérémy Royer, qu'est-ce que vous avez utilisé comme technique pour dessiner la faune, la flore des États-Unis du 19e siècle?
Alors, pour être simple, j'ai vraiment utilisé du crayon et un peu d'aquarelle. Et la couleur, c'était vraiment numérique. Quoi, voilà. Fabien, au début, m'a demandé de faire tout à l'aquarelle, mais je m'en serais pas capable. Donc voilà, je suis resté plutôt simple.
Jérémy Royer, dessinateur de Sur les ailes du monde, une bande dessinée éditée par Dargo, avec au scénario Fabien Grolot, et qui raconte l'histoire de ce passionné d'ornithologie, le peintre, dessinateur et du coup homme de science, John James Audubon, qui était français et qui avant s'appelait Jean-Jacques Audubon. Quel est votre de tous les oiseaux que vous avez dessinés, lequel est votre préféré, Jérémy Royer?
J'aime, mon préféré, c'est le merle, mais il n'est pas dans l'album. Et celui qui se rapproche à la fin de l'album, c'est la grive. Voilà. Pour moi, c'est un de mes oiseaux préférés. Et en plus, il y a une forte signification à la fin de l'album par rapport à la grive. Donc voilà, c'est un de mes oiseaux préférés.
Merci Jérémy Royer. Bien sûr, on peut retrouver votre dessin. Oh, le beau merle. On peut retrouver votre dessin en passant par la page de l'émission Un autre jour est possible, disponible sur franceculture.fr. Sur les ailes du monde, Audubon est une bande dessinée éditée chez Dargo. Vous pouvez réécouter cette émission et ou même podcaster toute la série avec notre ornithologue, diffusée cette semaine en passant par franceculture.fr. Tout est à votre disposition à la page de l'émission « Un autre jour est possible ». On se retrouve lundi avec une nouvelle série consacrée au peintre Jérôme Bosch. Merci de votre fidélité, c'était « Un autre jour est possible », préparé avec Pascaline Bonnet et Anaïs Isbert, avec aujourd'hui à la technique Delphine Baudet et Lakshmi, une émission réalisée comme tous les jours par Thomas Duterre. Bon week-end.